les podcasts de Radio Vatican.
2 ans après la COP21 de Paris, une nouvelle conférence des Nations Unies sur le climat s'ouvre ce lundi 6 novembre 2017 à Bonn, en Allemagne. Objectif des 11 jours de rassemblement, évaluer les ambitions de l'accord de Paris et avancer sur sa mise en œuvre. Sur ce point, l'heure n'est pas à l'optimisme. Il existe un écart catastrophique entre les engagements pris par les États pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et les efforts nécessaires pour respecter l'accord de Paris, a mis en garde le programme des Nations Unies pour l'environnement dans un rapport publié mardi dernier. La veille, l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, publiait un bulletin annuel inquiétant. Selon lui, la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a battu un nouveau record en 2016, 403,3 parties par million contre 400 en 2015. Gerd Bratham, chercheur à l'Organisation météorologique mondiale, explique en quoi ce seuil, le plus haut depuis 3 à 5 millions d'années, est problématique.
Ça, il faut comparer avec la concentration qu'il y avait, disons, au début de l'ère industrielle. Si on remonte vers 1750, là où on a inventé la machine à vapeur, etc., là où on a vraiment commencé à brûler le charbon et plus tard aussi le pétrole, etc. Donc à cette époque-là, la concentration ou le rapport de mélange, comme on appelle ça, c'était de l'ordre de 280 ppm. Et maintenant, on est monté jusqu'à 403. 403,3. En fait, ce qui est aussi spécial cette année, c'est le fait que l'augmentation de l'année dernière, ou de 2015 à 2016, donc sur un an, l'augmentation a été de 3,3 ppm. Et ça, c'est plus que jamais vu, en fait. On n'a jamais vu une telle augmentation d'un an à l'autre.
Et alors, à quoi c'est dû? Quelle est, par exemple, déjà la principale cause de cette évolution?
La raison principale, ça, c'est donc les émissions dues à toutes les activités de l'homme, comme, disons, les centrales électriques qui produisent de l'électricité grâce au charbon ou grâce au pétrole. Il y a aussi la circulation, les voitures, les avions, les bateaux, etc. Et bien sûr aussi, tout le monde qui chauffe sa maison avec le pétrole, par exemple. Aussi l'industrie, bien sûr, qui utilise aussi le pétrole ou le gaz naturel. Tout ça contribue à cette augmentation de CO2. En plus, il y a aussi le fait qu'on brûle la biomasse. Donc ça veut dire la forêt amazonienne, par exemple, qui sont brûlées pour faire des terrains d'agriculture. Et donc ça aussi, ça émet pas mal de CO2 dans l'atmosphère.
Un rapport de l'ONU indique pourtant qu'une partie des émissions que vous citez, celles concernant la combustion des ressources fossiles et de l'industrie du ciment, s'est stabilisée depuis 2014. Il y a donc d'autres raisons pour cette aggravation de la situation?
En fait, une raison pour cette augmentation record de 3,3 de 2015 à 2016, c'est dû à cet effet météorologique qu'on appelle El Niño. El Niño, c'est lié aux températures dans la surface dans l'océan Pacifique. C'est un phénomène qui arrive de temps à autre, qui va et vient. Et donc, quand il y a un phénomène El Niño, ça a une tendance à causer une plus grande augmentation de CO2 dans l'atmosphère. On estime que maintenant, environ 1,3 ppm est dû à cet effet El Niño. En total, de 2015 à 2016, c'est 3,3. Donc si on pouvait, disons, écarter ou filtrer cet effet de El Niño, on aurait quand même une augmentation de 2 ppm de CO2. Donc c'est une bonne nouvelle, bien sûr, comme vous dites, que les émissions ont stagné. Mais tant qu'on émet, ça s'accumule dans l'atmosphère. Donc même si ça commence à baisser un peu, peut-être, dans l'avenir, ça va toujours s'accumuler dans l'atmosphère.
Quelles sont les conséquences?
Quand il y a plus de CO2 dans l'atmosphère, ça va engendrer une augmentation de la température, premièrement. Et avec une augmentation de la température, on risque d'avoir plus de météorologie extrême. Donc, on ne peut pas dire avec certitude que les ouragans qu'on a vus dans les Caraïbes, etc., cette année, sont vraiment dus à l'homme. Mais on commence à soupçonner que l'effet dû à l'homme joue un rôle aussi dans la force de ces ouragans. En plus, il y a l'augmentation du niveau de la mer. Quand les glaciers fondent, le niveau de la mer va augmenter. Donc ça va aussi causer plus d'inondations que dans le passé. Un autre effet qui n'est pas dû à la température, c'est l'acidité de l'océan. Un peu de ce CO2 qu'on émet va aussi se dissoudre dans l'eau. Et là, comme CO2, c'est un gaz acide, ça va réduire le pH dans les océans. Et ça, c'est nocif pour des crustacés, tous ces animaux, tous ces organismes. Donc, ces animaux vont disparaître. Et donc, ça va être aussi très grave pour tous les animaux qui dépendent de, disons, de poissons pour manger, qui dépendent des crustacés, etc.
Et les conséquences sur l'homme, on a un peu de mal à les percevoir. Quelles sont-elles?
Quand on dit 2 degrés, ça ne dit pas beaucoup, en fait, parce que si on sort le matin et s'il fait 18 ou s'il fait 20 degrés, ça revient presque au même, quoi. Mais c'est une moyenne. Ça veut dire que quand il y a des épisodes de canicule, par exemple, une canicule va être encore plus extrême que dans le passé. Et donc, ça, bien sûr, peut avoir un effet sur la santé des personnes. Un autre effet qui est aussi important, c'est les glaciers dans les Alpes, les Andes, Himalaya, etc. Parce que les glaciers, ça stocke l'eau, on peut dire. Quand les glaciers sont toujours là, il y a un écoulement d'eau qui est en continu. Comme ça, les agriculteurs ont une source d'eau qui est plus ou moins constante pendant l'année. Si les glaciers disparaissent, on aura des épisodes plus extrêmes, ou inondations, ou sécheresses.
Pour éviter ces drames, l'accord de Paris sur le climat prévoit de limiter l'augmentation des températures. Où en est-on de son application alors que s'ouvre la COP23 deux ans après la COP21?
C'est un peu trop optimiste peut-être de croire qu'on verrait un effet déjà maintenant. Mais si on regarde nos chiffres, en fait, il n'y a pas de signe qu'il y ait une amélioration, en fait, malheureusement. Ça augmente chaque année, n'est-ce pas? Donc il n'y a pas d'amélioration qu'on peut signaler jusqu'ici.
Et pourtant, il existe des solutions.
Il existe des solutions, absolument. En fait, ça c'est une de mes opinions, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'inventer de nouvelles technologies. On a toutes les technologies qu'il faut. On a les éoliennes, on a les panneaux solaires, on a pas mal de technologies, en fait, pour produire de l'électricité sans brûler le charbon ou le pétrole, etc. Donc la technologie existe, mais il faut seulement l'appliquer, c'est ça.
Est-ce qu'il existe aussi des technologies pour réduire, par exemple, la quantité de CO2 dans l'atmosphère?
Ça, c'est une autre technologie dont on parle aussi beaucoup, en fait. Est-ce qu'il serait possible, en fait, de réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère? Il faudrait donc planter plus d'arbres. On parle aussi même d'arbres artificiels qui pompent l'air dans une machine. Et là, il y a un système chimique qui peut attraper le CO2. De ce CO2, on fait par exemple le carbonate de calcium ou quelque chose comme ça. Comme ça, on enlève directement le CO2 de l'atmosphère. Mais ça, pour que ce soit efficace, il faut faire ça à grande échelle et ça va coûter. Mais technologiquement, c'est pensable. Si c'est vraiment faisable dans l'avenir proche, ça c'est plus difficile à dire, mais c'est absolument quelque chose qu'on peut s'imaginer.
Et la solution ne serait-elle pas tout simplement également de réduire la consommation?
Oui, ça c'est vrai. En fait, chaque personne a une responsabilité globale d'agir pour limiter la consommation, si vous voulez. Bon, si on achète une voiture électrique, et si l'électricité qu'on utilise pour charger la batterie vient d'une centrale à charbon, on n'a pas beaucoup gagné. Mais si ça vient d'une centrale, disons, hydroélectrique, par exemple, là, ça c'est neutre en CO2, donc on n'émet pas de CO2. Par contre, en fait, tant que prendre sa voiture n'est pas criminel, disons, les autorités permettent aux gens de prendre la voiture, c'est tout à fait légal de prendre sa voiture. Donc les gens vont continuer à prendre la voiture. Donc pour faire quelque chose d'efficace, il faudrait vraiment aussi, c'est les politiques, les décideurs en fait, qui doivent aussi prendre la responsabilité et limiter la consommation.
Ce système paraît un petit peu impensable. Pour le faire accepter, il faudrait être certain que ça marche. Est-ce qu'on en est sûr?
En fait, une chose intéressante, c'est de comparer le protocole de Kyoto qu'on avait dans le passé ou l'accord de Paris avec le protocole de Montréal qui concerne les gaz qui détruisent l'ozone. Parce que ça, c'est un accord qui est un grand succès. On a vraiment arrêté la consommation et la production de ces gaz, et aussi les émissions, bien sûr. La différence entre ces protocoles, c'est que le protocole de Montréal se prononce sur la production et la consommation. Ça va directement à la source. Tandis que les accords sur le climat, là, on parle des émissions. si on appliquait les principes du protocole de Montréal sur les changements climatiques, il faudrait faire quelque chose comme interdire la vente d'essence aux stations de service, ou limiter au moins. On limite le nombre de litres d'essence que vous pouvez acheter. Là, on va à la source, on limite la consommation et la production. Et pour le protocole de Montréal, cela a été très très efficace et ça a été un grand succès.
N'est-ce pas un peu la logique de l'interdiction programmée de la vente de véhicules diesel et essence dans plusieurs pays, par exemple en France, à l'horizon 2040?
Oui, c'est beaucoup mieux que rien, mais bien sûr, ce n'est pas très très ambitieux. Il faut vraiment, pour limiter l'augmentation de température à 2 degrés, par exemple, ou même à 1,5, il faut agir vraiment vite, il faut agir maintenant. Il faut des mesures plus drastiques que ça.
Un entretien réalisé par Samuel Blény.